Les nouveaux corsaires de Philippe Vasset et Pierre Gatineau. Prise de son Fabien Gosset. Réalisation Rafik Zénine.
Au XVIIe siècle, les corsaires couraient les mers pour leur compte et pillaient des navires pour leur roi. Quatre siècles plus tard, leurs lointains héritiers sont partout. Sur les champs de bataille où ils sont aux avant-postes des combats, dans les airs où ils assurent la surveillance des côtes, dans l'espace où ils espionnent, et même dans le cyberespace où ils piratent. La concession des fonctions les plus régaliennes de l'État à des opérateurs privés sera la tendance lourde du siècle qui vient. Et sans attendre, notre série Les Nouveaux Corsaires vous propose d'aller à la rencontre de tous les entrepreneurs en souveraineté auxquels les États sous-traitent d'ores et déjà leurs missions les plus sensibles.
Aujourd'hui, le combat aérien avec Habib Boukarouba, Top Gun privé pour pays sans escadrille. Du Baron Rouge à la Patrouille de France, rien ne symbolise plus nettement la puissance d'un État que son aviation de chasse. Véritables signes extérieurs de souveraineté, ces appareils ultra perfectionnés permettent à un pays de contrôler son espace aérien, mais également de frapper des cibles à l'autre bout du globe, voire de délivrer l'arme atomique. Leurs pilotes, rigoureusement sélectionnés, sont l'incarnation de l'excellence nationale. En somme, rien n'est plus contre-intuitif que l'idée qu'un prestataire privé livre des combats aériens.
Mais si les pays occidentaux ont constitué à grand prix des armées de l'air performantes, ce n'est pas le cas de nombreux pays émergents. Confrontés à des guerres ou des mouvements de contestation armée, ces nations dépourvues de puissance aérienne en sont réduites à appeler leurs alliés à l'aide, comme le fait actuellement la Syrie avec la Russie, ou bien à se tourner vers des opérateurs privés.
C'est à ce déséquilibre que viennent répondre les services très particuliers qu'offre le français Habib Boukarouba. En 15 ans, ce dernier est devenu une sorte de numéro vert pour États en quête de puissance aérienne.
Un tel métier ne s'invente pas ex nihilo. Habib Boukarouba s'est lancé sur ce marché de niche au terme d'un parcours particulièrement original.
Je m'appelle Habib Boukarouba. Donc, en fait, c'est un parcours relativement long hein, et sinueux, mais on peut commencer, il y a eu un départ. Alors, le déclic, en fait, c'était les bandes dessinées.
Les chevaliers du ciel.
J'étais bercé dans mon enfance par une série qui s'appelait Bug Dany et Tanguy et la Verdure. Donc en fait, très très jeune, hein, j'ai compris qu'il y avait une chose qui m'intéressait dans la vie, c'était l'aéronautique, l'aviation. Et c'est une passion qui, au jour d'aujourd'hui, est restée intacte. Voilà, donc en fait, c'était vraiment le démarrage. C'était le fil conducteur qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. En fait, donc je suis resté relativement constant à ce titre.
Et cherchant le soleil, il se vit de la mort.
Indépendamment des bandes dessinées, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était dans la Marine nationale, d'accord, et qui m'abreuvait de lectures, qui n'étaient pas du tout des lectures nécessairement pour enfants, mais je lisais à l'époque Inter Avia. J'avais 10 ans, hein, 10-11 ans, et je dévorais, parce qu'il récupérait ça dans les couloirs des bases navales où il travaillait, et il ramenait ce genre de magazines. Il y avait Air et Cosmos, il y avait un autre magazine aéronautique français, je ne me rappelle plus très bien, il y avait Aviation Week, mais surtout Inter Avia, et qui parlait un petit peu d'armement, d'avions. Et donc j'ai développé très très jeune une culture improbable quelque part pour un enfant de cet âge-là. Et donc j'étais vraiment intéressé par ça. Voilà, donc tout simplement. Hein, donc j'étais un peu dans un milieu qui était, un contexte qui était un peu naturel là-dessus. Voilà. Donc j'ai un frère par contre, ça n'intéressait absolument pas, mais moi j'étais extrêmement intéressé par ça. J'ai vécu à Madagascar, il faut le savoir. Donc j'ai vécu à Diego Suarez, dans l'océan Indien. Il y avait une base navale française à l'époque, dans les années 70. Donc j'étais un jeune enfant à l'époque. Et par la suite, je suis rentré en France. Mon parcours lambda, lycée, le bac. Et juste après le bac, donc je suis rentré dans l'armée de l'air. Et dans l'armée de l'air, en fait, j'ai commencé d'abord, mon premier job dans l'armée de l'air, c'était officier enseignement. Voilà, donc j'étais affecté à la 33e escadre de reconnaissance, qui était basée à Strasbourg, et surtout, c'était une escadre qui était extrêmement intéressante d'un point de vue renseignement, parce que elle avait en charge, en fait, toutes les reconnaissances et missions de reconnaissance face à la 16e armée aérienne soviétique, qui était basée en Tchécoslovaquie. Et c'était la mission de la 33e escadre de reconnaissance. Et l'intérêt aussi, durant cette période, c'est que je me suis retrouvé, en fait, dans les dernières années de la guerre froide, en fait. C'était le début des années 80 et la fin des années, le début des années 90, pardon. Et en fait, j'étais un petit acteur, hein, mais dans le renseignement et dans le renseignement militaire, voilà, tout simplement, pour l'armée de l'air. L'intérêt, c'était surtout les systèmes et l'étude, en fait, l'étude des systèmes d'armes russes. Donc les appareils faisaient ce qu'on appelle des reconnaissances. Et notre rôle, nous, à l'époque, avant que je devienne par la suite pilote, mais le rôle, en fait, du renseignement, ça a été vraiment une fenêtre ouverte sur mes activités par la suite, en fait. Parce que ça m'a permis d'appréhender, en fait, les systèmes d'armes russes à l'époque, et pour lesquels on était formés, pour les connaître, les comprendre, connaître leurs possibilités, leurs vulnérabilités, et la manière de pouvoir interagir avec eux, dans ce qu'on appelle un contexte de type guerre froide. Voilà. Donc c'était le rôle d'un officier enseignement, et le rôle des officiers enseignement de l'époque, c'était aussi d'informer les pilotes dans les escadres sur les menaces auxquelles ils avaient à faire face, et de suivre en fait les évolutions technologiques et répercuter ça au niveau des escadrons et des escadres. Donc c'était le rôle des officiers renseignement, indépendamment du fait aussi qu'on exploitait du renseignement qui était acquis par l'armée de l'air. L'armée de l'air avait des escadrons à l'époque extrêmement spécialisés, des escadrons de guerre électronique qui volaient sur DC-8, sur Noratlas à l'époque, Transal par la suite, et qui faisaient du recueil de renseignements par rapport au rideau de fer de l'époque, et qui montaient jusque dans la Baltique. Et c'était un environnement qui était extrêmement riche à l'époque, en termes de cibles, en termes d'espionnage, en termes de renseignements. Donc c'était, pour quelqu'un comme moi qui était fasciné par l'information et la chose militaire, c'était Noël tous les jours. Alors par la suite, j'ai quitté l'armée de l'air, bien entendu, hein.
C'est un basculement qu'avait déjà évoqué avec nous Tim Spicer, le pionnier des soldats privés, et qui va s'avérer une constante tout au long de cette série. Pour beaucoup de nouveaux corsaires, c'est la fin de la guerre froide qui a ouvert de nouveaux horizons. Qu'ils soient soldats, officiers de renseignement, pilotes, spécialistes des écoutes ou diplomates, tous ont commencé à envisager une reconversion dans le privé quand a disparu l'ennemi idéologique et héréditaire, à savoir l'URSS.
C'est à ce moment-là que les budgets militaires ont cessé d'être illimités. À ce moment-là que les États ont commencé à admettre qu'ils n'étaient pas omnipotents. À ce moment-là que les alliances sont devenues mouvantes et imprévisibles. Et à ce moment-là que le secteur privé a offert à beaucoup de fonctionnaires très spécialisés une alternative de carrière.
J'ai une bonne maîtrise à la fois de la partie technique, de la partie aéronautique, pilotage pur, et aussi de tout ce qui est système d'armes et de leur emploi. Donc c'est une position relativement, pas nécessairement anodine quelque part, mais qui m'a permis de pouvoir appréhender dans son ensemble les aspects militaires, mais aussi industriels, qui sont liés à la chose militaire. J'étais aux États-Unis et j'étais recruté très très rapidement, en fait, par un groupe qui s'appelait Northrop Grumman. Je me suis un petit peu affranchi, en fait, des contraintes d'être juste un employé, et donc je suis devenu consultant, mais j'ai pu faire du consulting pour plusieurs grands groupes internationaux à l'époque. J'ai travaillé aussi pour un autre groupe qui s'appelle toujours d'ailleurs Pilatus Aircraft, pour laquelle j'étais à la fois directeur commercial, mais cela ne m'empêchait pas aussi de pouvoir représenter et travailler pour d'autres sociétés. Donc assez rapidement, bien entendu, d'un point de vue financier, vous avez de l'aisance, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Et j'ai pu m'auto-financer, tout simplement. Moi, j'ai jamais eu le concours de banque, hein. J'ai jamais eu accès à des prêts bancaires pour pouvoir développer mon activité, quoi que ce soit. Donc, je me suis toujours auto-financé. Au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui. On a eu la chance d'avoir un contrat avec un État au début des années 2000, en 2006 très exactement, avec un État qui s'appelle le Tchad, et qui, lui, nous a permis de changer de dimension. Donc en fait, c'était un contrat qui a été dimensionnant pour nous et qui nous a fait sortir, je dirais, du cycle traditionnel des entreprises de ce type. Alors aujourd'hui, je ne suis plus dans l'armée de l'air, mais j'ai une société qui possède en propre des avions d'armes qu'on utilise pour ce qu'on appelle des missions type plastron pour des gouvernements étrangers. L'aspect financier est extrêmement important parce que faire la transition et devenir patron d'entreprise et qui possède des appareils de combat, des hélicoptères ou quoi que ce soit, demande des finances qui sont assez assez conséquentes. Et en fait, j'ai pu acquérir ce qu'on appelle un peu un trésor de guerre, tout simplement parce qu'on a fait des opérations commerciales qui ont été extrêmement lucratives. La transition, en fait, elle a été relativement simple quelque part. C'est que je me suis retrouvé un peu propulsé quelque part dans le monde des affaires, pour lequel j'étais absolument pas destiné. J'ai jamais fait d'école de commerce, j'ai pas de background finance ou quoi que ce soit.
N'ayant plus de lien avec aucun État, ni même avec de grandes entreprises, Habib Boukarouba va se réinventer en prestataire de guerre aérienne. Son premier client sera le Tchad, un état dépourvu d'aviation et aux prises à l'époque avec une guérilla très déterminée.
Les Tchadiens avaient besoin d'appareils type Pilatus, PC-7, PC-9. Ce sont des petits avions turbopropulseurs à hélice et qui servent pour faire de l'appui-feu et de l'entraînement aérien pour former des pilotes. Ce sont des appareils qui sont extrêmement adaptés, au jour d'aujourd'hui d'ailleurs, hein, pour des conflits type Sahel. La société Pilatus était assez frileuse parce qu'ils avaient déjà eu des histoires au Mexique, ils avaient des histoires en Birmanie où des appareils avaient été utilisés contre les populations locales et pour lequel la Suisse la société Pilatus n'était pas très désireuse de fournir ce type d'appareil. Mais cela étant dit, l'appât du gain et le fait de pouvoir vendre des avions est quand même critique pour une société. Donc ils ont vendu ces avions au titre des avions type Pilatus PC-9 au Tchad au titre de la vente d'avions d'entraînement, mais tout en sachant pertinemment que ces appareils allaient être modifiés par la suite par moi-même, voilà, par ma société naissante à ce moment-là, pour pouvoir faire de l'appui-feu. Et donc j'ai modifié ces avions. Alors je n'ai pas modifié que ces avions, j'ai modifié aussi par la suite l'ensemble de la flotte de l'armée de l'air du Tchad. Et en fait, la manière dont ça s'est passé est là aussi extrêmement intéressante, c'est que j'ai demandé à voir le président Déby, que je connaissais absolument pas. Hein. À ce moment-là, j'ai demandé à le voir et je lui ai proposé quelque chose qui sortait un peu des sentiers battus. Et en fait, je suis allé lui proposer ce qu'on appelle un concept d'opération clé en main pour défaire la rébellion. J'arrivais pas les mains vides, j'avais déjà pensé la manière optimale d'utiliser ce genre d'appareil dans le conflit tchadien. Mais j'avais fait plus de recherches que ça, et en fait j'avais étudié la nature du conflit, et je me suis aperçu que en fait c'était une guerre d'attrition que le Tchad menait depuis plus de 40 ans, malgré l'aide que la France prodiguait au Tchad, hein, d'une manière relativement constante, hein, depuis les années 60. Et à la fin de chaque saison des pluies, vous aviez des rebelles qui arrivaient toujours du même coin, qui était la frontière soudanaise, et qui envahissaient le Tchad avec sa cohorte de tueries, de misères, de cataclysmes. Et donc j'ai proposé tout simplement une idée pour pouvoir mettre fin à cela. En fait, ils se battaient suivant les mêmes termes que la rébellion. Et donc, je dis à l'époque au président Déby, il faut vous battre, mais sur un autre terrain que celui de la rébellion. Vous êtes un État, donc vous devez mettre un curseur sur lequel la rébellion ne peut pas suivre. Et en fait, en étudiant la manière d'opérer des Tchadiens, il ne s'agissait pas d'apprendre aux Tchadiens à se battre. Ils savent très bien le faire tout seuls, mais ils se battaient à somme nulle. C'était un jeu à somme nulle à la fin. Donc c'était de créer les conditions opérationnelles où la rébellion ne pouvait pas suivre. Et ce delta, ce discriminant, ben en fait, il fallait le chercher dans les combats nocturnes, d'accord, et surtout la recherche de l'information en amont des combats, de manière à pouvoir appréhender une situation avant même qu'elle n'apparaisse sur le terrain. Ce qui demandait des moyens à l'époque ISR. Alors on y revient, l'intelligence, la surveillance et le renseignement, mais au service des troupes, c'est-à-dire avoir un coup d'avance sur ses opposants. Et aussi de pouvoir les attaquer là où ils ne pouvaient pas vous attaquer. Et c'était principalement la nuit. Nous, on détenait une partie du puzzle, mais l'autre partie était détenue par la France. La France avait, et a toujours eu dans la région, des éléments d'information à travers les Mirage F1 CR, d'ailleurs qui venaient de ma propre escadre. Hein. Donc on était un peu en terrain conquis quelque part, mais surtout aussi à travers des images satellitaires. et aussi à travers des écoutes électroniques. Mais ces informations n'étaient pas prodiguées en temps réel, je dirais, pour les forces tchadiennes. Donc, ou si elles étaient prodiguées, c'était d'une manière assez archaïque, à travers juste des photos satellitaires, mais pas d'informations qui sont utiles quand on en a besoin. Mmh. En fait, moi, j'ai créé le lien entre la partie information qui venait du CPCO. Alors le CPCO, c'est le centre de commandement opérationnel de l'armée française, qui dans lequel viennent toutes les informations d'origine satellitaire, d'origine humaine, d'origine technique, à travers des interceptions. Et en fait, j'ai créé un lien entre ces informations et les capacités d'attaque, alors principalement aéronautiques, des Tchadiens. Donc j'ai modernisé leurs appareils pour qu'ils puissent recevoir de l'information en temps réel et avoir des capteurs pour pouvoir voir, je dirais, l'ennemi quand lui ne peut pas vous voir.
Alors que le Tchad est aux abois, Griffon, la toute nouvelle société d'Habib Boukarouba, fournit au pays sahélien une flotte d'avions dotée d'équipements dernier cri et une stratégie victorieuse contre la rébellion. De prestataire, l'ancien officier de l'armée de l'air française devient partie intégrante de l'effort de guerre tchadien.
Je suis devenu très vite ce qu'on appelle un conseiller opérationnel, un démultiplicateur de force. C'était fait d'une manière assez ad hoc, quelque part, où tout simplement, moi, je proposais des options techniques et des options opérationnelles et qui étaient validées. Et en fait, en fonction de ce qui était validé, on allait faire les courses, hein, où on équipait de telle ou telle manière leurs engins. Alors, cela étant dit, il y avait urgence à l'époque. Donc, on a commencé à faire ça en 2006. Et donc on a travaillé au Tchad de 2006 à 2008, jusqu'au mois d'avril 2008, où on a participé à la fin des combats à N'Djamena, où à l'époque la France avait quasiment laissé tomber le président Déby. Il faut dire les choses comme elles sont, où la France n'était pas dans une situation où elle l'a réellement soutenu d'un point de vue opérationnel. On avait une influence parce qu'on conseillait tout simplement, donc on avait un vrai conseil opérationnel qui était face au titre, et j'avais plus de 150 personnes hein, qui étaient sur place. Donc il faut savoir que j'avais des pilotes, j'avais des mécaniciens, j'avais un team technique, on faisait de la maintenance, on a modernisé leurs plateformes, on a acquis des plateformes pour eux, on s'occupait de l'armement et on s'occupait aussi des missions. Voilà, donc effectivement on était l'armée de l'air tchadienne tout simplement. Aucun des pilotes était tchadien. Il y en avait quelques-uns, mais ils ne participaient pas réellement aux missions dans la mesure où ils n'étaient pas familiarisés avec les équipements et le niveau technologique qui était intégré à ces hélicoptères. Donc en fait, on avait des équipements qui étaient extrêmement sophistiqués, hein, déjà pour l'époque. On était capable de recevoir des données tactiques en vol, de pouvoir se passer des informations, de se coordonner en temps réel, chose que les armées font aujourd'hui. Mais nous, on l'a fait il y a 10 ans déjà. Voilà. Donc ils n'avaient pas le niveau technique et pour lequel il a fallu qu'on engage des pilotes contractants hein, qui venaient principalement d'Amérique du Sud.
L'auditeur attentif aura remarqué qu'Habib Boukarouba a imperceptiblement glissé du « je » au « on ». C'est que sa société, Griffon, a fini par se confondre avec l'armée de l'air tchadienne et a sauvé, en 2008, le régime d'Idriss Déby, toujours en place, 12 ans après.
Alors les rebelles, il faut savoir qu'on les avait défaits à de nombreuses reprises. Donc c'était vraiment les derniers soubresauts de la rébellion. C'était une opération qui avait été relativement bien montée par les frères Erdimi à l'époque, hein, qui étaient à la tête de la rébellion tchadienne. Et ils ont réussi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérêt des opérations qu'on montait pour le compte de l'armée de l'air tchadienne et du gouvernement tchadien, c'était lorsque les rebelles se concentraient. En fait, les rebelles, lorsqu'ils sont dans la pampa, dans la brousse, avec 2 ou 3 véhicules, ne représentent pas réellement de menace. Par contre, vous avez 300 Toyota qui arrivent, ou 400 Toyota qui arrivent vers vous, et là, elles développent une masse critique et qui devient extrêmement dangereuse pour les Tchadiens. Donc nous, de 2006 à 2008, on les avait toujours interceptées au bon moment, c'est-à-dire lorsqu'elles se ravitaillaient de nuit. En fait, de nuit, on savait où elles étaient, donc on venait et on les anéantissait, tout simplement. Voilà. Donc le 2008, par contre, il y a eu un trou dans la raquette Et alors on ne sait pas si c'est vraiment un trou dans la raquette ou on a laissé passer. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pas la réponse, mais il y a des éléments qui étaient relativement troublants, puisqu'il y avait une veille opérationnelle qui était faite à travers les avions de reconnaissance et de surveillance de la marine française atlantique, hein, qui opère aussi au-dessus du désert, parce qu'ils ont de très bons capteurs, et ils n'ont pas vu ou apparemment n'ont pas transmis, on ne sait pas, l'information où les rebelles fondés sur N'Djamena, et ils se sont regroupés à Massagué, dans les environs de N'Djamena, où ils ont défait l'armée tchadienne. Hein, il faut dire les choses comme elles sont. L'armée tchadienne s'est portée à la hauteur de Massagué, ont été défaits par la rébellion, et Déby a dû fuir avec les restes de la garde présidentielle vers son palais présidentiel, dans lequel il s'est retranché. La rébellion après Massagué est rentrée à N'Djamena, où la France a adopté une position relativement neutre, puisqu'en fait, il pensait que Déby était fini, et sur lequel Déby a pu compter, bien entendu, sur les éléments de la garde présidentielle qui était retranchée avec lui, et il a tenu bon, et sur l'anéantissement des rebelles, principalement sur l'avenue Charles de Gaulle, et dans les environs, et qui a été effectué par ma société à l'époque.
Habib Boukarouba opère au Tchad en indépendant, cela ne veut néanmoins pas dire qu'il est sans lien avec les différents États concernés par la crise au Tchad, au premier rang desquels la France.
Nous, on a toujours maintenu un lien. Hein, alors c'est là aussi où ça devient intéressant, parce qu'on a toujours informé, bien entendu, les services français. Donc à l'époque, moi j'avais un directeur technique et opérationnel qui s'appelait M. Denis Allard, qui est un ancien de la LAT et qui servait d'officier de liaison avec la DGSE et qui renseignait systématiquement la DGSE, le CPCO et le directeur de cabinet à l'époque, c'était Alliot Marie et Morin, et qui les renseignait sur la nature des opérations. La France était bien entendu parfaitement informée de tout ce que nous faisions à l'époque.
Mais la France n'est pas le seul État sur lequel s'adosse Griffon, la société d'Habib Boukarouba. Deux autres pays, bien qu'officiellement ennemis l'un de l'autre, vont s'impliquer pour permettre à l'entreprise d'avoir les coudées franches au Tchad.
Il y a un élément extrêmement important dans cette histoire. Je ne sais pas si tout le monde s'en souvient, mais à l'époque, le Soudan était un petit peu à feu et à sang entre les histoires du Sud-Soudan et l'Ouest du Soudan, où il y avait les Janjaweeds, qui étaient des tribus arabes qui pillaient, qui rançonnaient et qui tuaient, hein, tout un tas de gens dans la région et qui nomadisaient entre le Tchad et le Soudan. Et à l'époque, il y avait les Chababs en Somalie. Il n'y avait strictement aucune frontière qui pouvait arrêter qui que ce soit de la Somalie à la Mauritanie à l'époque. Le seul État qui était, je dirais, relativement intact et qui était capable de pouvoir s'opposer, je dirais, à une mainmise de ces groupes terroristes ou djihadistes de l'époque, c'était le Tchad. Et il y avait un intérêt tout naturel à protéger Déby, du président Déby à l'époque, quelles que soient ses pratiques, je dirais, démocratiques ou quoi que ce soit au Tchad. Moi, je suis pas là nécessairement pour juger, hein. Je suis pas tchadien. Mais il était important qu'il puisse offrir, je dirais, une résistance à ces groupes à l'époque. Chose qu'il a faite, il faut le savoir. Mais il y avait aussi des États qui avaient intérêt à ce que le Tchad soit dans une situation où il reste un rempart face à, je dirais, une décomposition de l'Afrique annoncée. D'accord. L'histoire du Sahel, ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui, il y a quelques années. Ça a commencé bien avant cela, il y a pratiquement une quinzaine d'années. Et à l'époque, il y avait un pays que j'ai réussi à convaincre d'aider le Tchad, c'était l'Algérie. Et il y a un autre pays qui rentrait aussi dans l'équation, c'était Israël. Voilà. Donc, il y avait deux États qui ont eu une convergence de vues, hein, là-dessus. Alors, pas nécessairement des accords ou quoi que ce soit, mais qui ont compris l'intérêt d'avoir un État qui était stable. Et donc, c'était l'Algérie et Israël. L'Algérie a énormément aidé en matière d'armement. Donc, il faut savoir que les hélicoptères de combat russes et les avions Pilatus et tout, qui volaient dans la région et qui menaient les missions, ont été armés discrètement par l'Algérie. Voilà, donc il y a eu un pont aérien entre le Tchad et l'Algérie, et ce pont aérien a été organisé par le DRS à l'époque, hein, donc les services algériens, qui avaient un intérêt extrêmement important à avoir un Tchad stabilisé et un Tchad qui ne sombre pas, je dirais, dans le djihadisme. Et l'autre aspect qui était aussi intéressant dans cette histoire, c'est l'aspect israélien, où Israël m'a fourni les éléments me permettant de moderniser les appareils, aussi bien hélicoptères qu'avions, tchadiens, et les moderniser avec des technologies qui, à l'époque, étaient extrêmement sensibles. Les systèmes de vision nocturne, les systèmes de les conduites de tir, à l'époque, les data links, provenaient d'Israël. Il n'y a jamais eu de réunion algéro-israélienne, mais par contre, les techniciens des uns et des autres travaillent dans les mêmes hangars. Donc j'avais des techniciens algériens qui étaient détachés dans ma société parce qu'ils avaient une expertise sur les appareils russes, et on avait les techniciens israéliens qui avaient une expertise technologique sur les senseurs, et tout le monde travaillait en bonne entente dans des hangars à N'Djamena, sur les mêmes plateformes, et ils déjeunaient ensemble. Mais il n'y avait pas d'accord, je dirais, politique direct. Mais par contre, il y avait une convergence d'intérêts, et les choses se sont passées extrêmement bien. Voilà.
Si plusieurs pays couvrent les opérations d'Habib Boukarouba au Tchad, le droit international, lui, est moins accommodant. Il n'a tout simplement pas prévu la possibilité qu'une armée de l'air privée vole au secours d'un État.
On volait tout simplement sous cocarde tchadienne. On volait avec des appareils qui étaient enregistrés dans la nomenclature opérationnelle de l'armée de l'air tchadienne. Alors effectivement, il y avait se posait un peu le problème des sociétés militaires privées, tout simplement. Quel est le statut réellement des contractors que nous étions à ce moment-là?
Quelques années plus tard, ce flou juridique va se transformer en piège pour Habib Boukarouba. Pierre Gatineau, Philippe Vasset, Les Nouveaux Corsaires, France Culture. Ancien officier de l'armée de l'air, devenu prestataire privé pour État en guerre, Habib Boukarouba n'a jamais cessé de voler sur des avions de combat et de mener des opérations aériennes pour le compte d'armées étrangères.
J'ai commencé à piloter déjà à l'âge de 15 ans. Voilà, j'ai commencé d'abord par le vol à voile, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de pilotes. Et après, j'ai fait toute une progression jusque sur avion d'armes. Et donc aujourd'hui, je vole toujours à l'heure actuelle. Je vole sur des avions type Alpha Jet, par exemple, L-39. Je vole aussi sur Sukhoi 25. Donc en fait, j'ai passé pratiquement toute la progression classique d'un pilote. Voilà, et au jour d'aujourd'hui, je suis... C'est une passion dont je continue toujours à piloter, bien entendu, au sein de ma société, par contre. Alors aujourd'hui, je ne suis plus dans l'armée de l'air, mais j'ai une société qui possède en propre des avions d'armes qu'on utilise pour ce qu'on appelle des missions type plastron pour des gouvernements étrangers.
Sa première opération d'envergure a lieu au Tchad, où il monte de toutes pièces une armée de l'air et joue un rôle décisif dans la défaite de la rébellion qui menaçait la région. Alors que la poussière des combats est retombée depuis longtemps au Tibesti, l'affaire va rattraper Habib Boukarouba en France.
Alors le Tchad, donc j'ai quitté le Tchad tout simplement parce que j'avais rempli ma mission. On avait fait ce qu'il y avait à faire, on a été payé pour cela. Mais il fallait aussi savoir quitter la table. C'est une victoire du président Déby, d'abord. Donc c'est à lui. Nous, on adopte toujours cet adage où il faut savoir quitter la table. Voilà. Donc on n'est pas resté, on est parti. On a commencé à vaquer sur d'autres occupations. Coup de théâtre, 6 mois après, on a une perquisition de la brigade financière chez moi et dans ma société au mois de fin septembre. À l'époque, ma société est une société française, donc c'est une société, c'était une SAS, hein, d'un point de vue juridique. Et à l'époque, nous avions fait des demandes. Alors, nous avions fait des demandes au niveau de la direction des affaires stratégiques hein, du ministère de la Défense pour obtenir ce qu'on appelle une AFC, une autorisation de fabrication et de commerce d'armes, d'accord. Alors, tout en sachant qu'on n'a jamais rien exporté de France, donc il y avait pas de personnel réellement français qui était impliqué à ce titre dans les opérations, d'accord. Et aucun équipement ne provenait de France. Les équipements qu'on a exportés au Tchad provenaient tous principalement d'Israël et d'un autre pays, et sur lequel on avait les licences d'exportation du ministère de la Défense israélien par Sibat hein, à l'époque. Hein. Voilà, donc on n'avait pas demandé d'exportation.
C'est à ce moment-là, alors que la brigade financière vient d'ouvrir une enquête contre lui, que nous entendons pour la première fois parler d'Habib Boukarouba. À l'époque, on nous le décrit comme un odieux trafiquant d'armes, opérant hors de tout contrôle. Sachant que les rôles sont rarement aussi tranchés, on vérifie et on s'aperçoit que la réalité est sensiblement plus complexe.
Au départ, on ne pensait pas qu'on aurait eu des soucis à ce niveau-là, dans la mesure où les autorités françaises et surtout le ministère de la Défense étaient parfaitement au courant de toutes nos opérations. D'ailleurs, il faut savoir que c'est le service des essences des armées qui ravitaillait nos appareils tous les jours. Donc et qui transportait même nos munitions. Donc et sur lequel on leur donnait des comptes rendus opérationnels pratiquement toutes les semaines. Donc voilà, mais on a eu un peu la puce à l'oreille puisque en fait on avait fait une demande hein, tout simplement officielle en France pour pouvoir avoir une AFC, le tampon, le papier qui va bien et à l'époque en fait on était sous audit du ministère de la Défense, mais en fait l'audit c'est un peu une sorte de feu orange, c'est-à-dire on vous audite, mais l'audit a duré presque 3 ans, donc ce qui est du jamais vu, mais en fait on s'en est aperçu par la suite, c'est qu'il y avait une autre autorité en dehors du ministère de la Défense français qui gardait ça sous le coude et qui voulait utiliser ça d'une autre manière.
Bien après que ces avions ont défait les rebelles tchadiens, Habib Boukarouba a mené d'autres opérations, plus industrielles celles-là, dont une consistait à adapter des hélicoptères de combat italiens aux besoins de l'armée algérienne. Le problème, c'est que la France, elle aussi, tentait à cette même période de vendre des hélicoptères à l'Algérie, et que le rôle joué par Habib Boukarouba auprès des industriels italiens gênait considérablement Paris.
Ben, tout simplement, c'est qu'à la même époque, on était engagé sur d'autres opérations ou d'autres activités, entre autres en Algérie, à l'époque où nous étions, nous, un sous-traitant d'une société qui s'appelle la Gusta Westland. Donc, comme on avait acquis un savoir-faire en matière de modernisation ou de transformation ou d'équipement d'appareils, nous avions contribué à la victoire d'un groupe qui s'appelle la Gusta Westland pour la fourniture d'hélicoptères pour l'Algérie à l'époque, hein, pour la marine algérienne. Et l'opposition à l'époque était Eurocopter, aujourd'hui Airbus Hélicoptère. Et en fait, ça nous a créé, je pense, beaucoup d'inimités par la suite. Sur le moment, on n'a pas vu ça arriver. C'est en fait les ennuis qu'on a eus par la suite et le fait qu'on nous a freinés ou pas autorisés d'avoir les AFC nécessaires à notre activité, en fait, étaient liés au fait qu'on perturbait un jeu, mais qui nous dépassait à l'époque. Et un jeu qui était géré par la War Room de à l'époque du temps de Sarkozy. Sarkozy avait centralisé un petit peu les activités de vente d'équipements militaires pour les pays à travers ce qu'ils appelaient une War Room, qui a été assez médiocre en fait, puisqu'ils n'ont jamais ils ont jamais vendu grand chose à travers cette War Room. Ils se sont toujours pris des tôles en fait. Il y avait un intermédiaire qui avait pignon sur rue, mais là aussi on l'apprendra par la suite, qui s'appelait Monsieur Jury, hein, et qui était très lié à Monsieur Guéant, hein, comme on le sait maintenant aujourd'hui. Mais à l'époque on ne le savait pas, et à l'époque toutes les transactions de ce type-là étaient gérées et étaient régulées par cette War Room, et cette War Room en fait elle était entre les mains d'un intermédiaire, tout simplement. Bon, tout d'abord, la plainte qui a été déposée contre nous, elle émanait pas du ministère de la Défense, alors que normalement, si dans ce genre d'activité, la plainte aurait dû émaner du ministère de la Défense. Bon, elle est venue de Bercy, d'une manière un peu rocambolesque, mais elle est venue de Bercy. Donc Bercy a découvert que nous opérions au Tchad, alors que tout le monde le savait. Donc c'était assez... les principaux concernés étaient partie prenante, c'est-à-dire le ministère de la Défense français, mais Bercy apparemment s'étonnait qu'on n'avait pas d'AFC. Donc c'était un peu particulier. Alors il faut savoir qu'on n'a jamais été mis en examen ou quoi que ce soit, hein. On a eu une descente de la brigade financière chez nous, et 5 ans après, un procès. Les questions qui auraient dû être posées n'ont jamais été posées. On est resté uniquement dans la forme et on n'est pas rentré dans le fond de cette affaire. C'est-à-dire quelle était l'interaction de la France par rapport à nous dans ce conflit. En fait, non, on s'occupait uniquement des problèmes administratifs si on avait le bon tampon sur le bon papier qui s'appelait l'AFC. Alors qu'on menait des opérations de combat à une échelle qu'on ne connaît pas en France, voilà, en tant que société privée, où on a influé sur l'issue d'un conflit, d'accord, où on a participé, je dirais, à la stabilisation d'un État, mais toutes ces questions de fond ne semblaient pas pertinentes. Et aussi, la vraie question, c'est pourquoi je me retrouve au tribunal, qui était la vraie question, mais pour lequel le juge de l'époque ne semblait pas tellement intéressé. Et puis surtout, les histoires de documents qui se sont un peu perdus lors de ce procès. Bon, il faut savoir que pour se défendre, mon directeur des opérations, M. Denis Allard, avait sollicité ce que le ministère de la Défense fasse une lettre. Une lettre stipulant que nos opérations n'étaient pas des opérations, je dirais, faites dans la clandestinité la plus totale. Ils étaient parfaitement au courant et il y avait une vraie relation, je dirais, d'un point de vue opérationnel, hein, entre le ministère de la Défense français et nous, et pour lequel, à l'époque, le directeur de cabinet du ministère de la Défense avait écrit cette lettre. Et cette lettre, on l'avait versée au dossier, et étrangement, elle avait disparu lors du procès. Le juge ne l'avait jamais vue, et heureusement, on avait conservé avec nous... cette lettre, l'original, qu'on a produit lors du procès, ce qui est complètement anormal. Et on voyait bien qu'il y avait des forces. Alors, moi, je suis pas du tout quelqu'un de complotiste ou quoi que ce soit, mais on voyait bien qu'il y avait des intérêts qui manifestement étaient à la manœuvre.
Lorsque le procès a débuté, Denis Allard, le directeur des opérations de Griffon, a trouvé la mort dans un accident de voiture.
Le procès, auquel nous avons assisté à l'époque, nous a laissé le souvenir d'un dialogue de sourds. Les juges, qui n'étaient mandatés que sur une question strictement administrative, refusaient que les débats s'en éloignent, sentant bien que tout écart reviendrait à s'aventurer en terrain mouvant. A l'inverse, Habib Boukarouba et ses associés détaillaient à la barre leurs opérations au Tchad pour un auditoire qui aurait eu le plus grand mal à placer N'Djamena sur une carte. Pour ajouter à l'étrangeté de la scène, les bancs de la 11e chambre du tribunal de grande instance de Paris étaient remplis d'observateurs silencieux qui, comme nous, ne perdaient pas une miette du premier procès intenté en France à une société militaire privée.
Alors au départ, on a essayé de nous coller le fait qu'on faisait du trafic d'armes. l'époque, il n'y avait aucun trafic d'armes. Tout ce qui a été vendu, il a été vendu au vu et au su de tout le monde, et avec les licences d'exportation des pays qui émettaient ce genre d'équipement. Donc, très vite, ça tenait pas tellement la route. Ce qui a été retenu, c'était le défaut d'AFC à la fin uniquement. Mais les vraies questions concernant le rôle et l'aspect opérationnel de ce qu'on faisait au Tchad, il n'y a strictement eu aucune. Mais alors, aucune question, ce qui était quand même assez hallucinant. Alors aussi, en France, il y a quelque chose qu'il faut remettre en perspective. Par exemple, aux États-Unis, lorsque vous demandez une licence d'exportation, cette licence d'exportation, elle peut être demandée par n'importe qui, et le droit s'applique à tout le monde. Que vous soyez une énorme société comme Lockheed Martin ou une petite PME là-dedans, le droit s'applique de la même manière à tout le monde. En France, non. Les AFC et ce qui régule les autorisations d'exportation, c'est réellement la tête du client. Il n'y a pas de vraie, doctrine à ce niveau-là. Et le droit ne s'applique pas de la même façon en fonction des sociétés. Alors, je suis condamné à verser 50 000 euros. J'ai plus en tête exactement le libellé du jugement, mais c'est tout simplement ils avaient enlevé tout un tas de chefs d'accusation de trafic d'armes et tout. En fait, tout simplement, je n'avais pas l'autorisation de fabrication de commerce, donc j'avais pas le bon papier avec le bon tampon. Alors, à un moment, je me suis dit, je vais faire appel, mais ça servait à rien de faire appel. Moi, j'estimais que c'était une condamnation qui était abusive, tout simplement, et de très loin. Hein. Mais bon, vous avez face à vous une justice qui ne voulait pas poser les vraies questions et sur lequel, lorsque vous essayez de vous défendre et d'amener, le juge vous demande de vous taire. Donc c'est kafkaïen, c'est ubuesque. Voilà. Donc je me suis dit bon, ça sert à rien et il fallait partir. Alors ce que je voulais vous dire aussi avant que je sois inquiété à travers cette perquisition. Il faut savoir qu'ils ont mis en place un système pour essayer de stopper mes opérations, mais d'une manière totalement occulte. Il faut savoir que les banques sur lesquelles ma société était enregistrée, avec laquelle nous avions des rapports qui sont parfaitement sains, recevaient des coups de téléphone qui venaient d'un bureau de l'Élysée pour demander de fermer nos comptes. Et d'essayer d'assécher toute forme de possibilité d'utiliser les canaux bancaires pour nos transactions. Donc en fait, fait d'une manière totalement opaque et clandestine. Il ne s'agit pas d'une décision d'un juge ou n'importe quoi. C'est une affaire de coup de téléphone où vous téléphonez au patron du Crédit du Nord en lui demandant de fermer le compte de telle société, documenté par rien d'ailleurs, mais uniquement le fait du prince. Donc ça, on a subi des pressions graduellement après la fin de nos opérations au Tchad et ça n'a pas marché parce que à l'époque on a réussi à se remettre dans une banque qui n'obéissait pas à ces injonctions qui venaient d'un bureau de l'Élysée. Donc on a réussi à se réfugier dans une banque qui s'appelait la BIA, qui est une banque qui avait que deux actionnaires. Donc c'est une banque française, mais qui n'a que deux actionnaires. Il faut savoir, c'est l'État libyen et l'État algérien. Voilà. Mais par contre, qui ne répondait pas aux injonctions de l'Élysée de fermer nos comptes, parce que c'était documenté par aucune décision de justice.
C'est un paradoxe que l'on retrouve souvent au cours de cette série dédiée aux nouveaux corsaires. Quand on est mandaté par un gouvernement sur un secteur aussi sensible que les opérations militaires ou de renseignement, on n'est jamais totalement indépendant. Et quand on en vient à menacer les intérêts d'un État, la seule solution est bien souvent de solliciter la protection d'un autre État.
Le procès perdu d'Habib Boukarouba va sonner le glas de ses opérations en France, mais certainement pas le glas de son entreprise. Au contraire, le marché semble n'avoir jamais été aussi vaste pour les Top Gun privés.
Alors, à ce moment-là, on avait très vite compris qu'on pouvait absolument plus opérer de France. Donc, tout simplement, alors on a fermé notre société, on a rapatrié, on a divisé la société en deux parties. Une partie est allée aux États-Unis, donc est allée à Seattle, voilà, et l'autre partie est allée aux Émirats Arabes Unis. Je peux mener cette activité dans pratiquement tous les pays du monde, sauf en France. Donc je peux mener cette activité aux États-Unis, je peux mener cette activité en Belgique, en Allemagne, en Suède, en Grande-Bretagne, pratiquement dans n'importe quel pays du monde, mais pas en France.
Sur ses opérations actuelles, Habib Boukarouba est nettement moins loquace.
Alors ça, je ne peux pas vous en parler comme ça, maintenant.
Mais il accepte néanmoins d'évoquer ses activités de conseil, même si, on va le voir, il s'agit de conseils particulièrement opérationnels.
C'est vraiment là où on se situe aujourd'hui. Alors tout simplement, on est aujourd'hui dans une logique où nous fournissons du conseil, ce qu'on appelle du conseil opérationnel. C'est-à-dire on est capable aujourd'hui d'évaluer une situation opérationnelle, technique, en termes de menaces, en termes de déploiement, en termes de doctrine d'emploi, qui est souvent absente. Le Moyen-Orient est extrêmement riche d'exemples à ce titre, où vous avez des armées, par exemple en Arabie Saoudite, qui acquièrent un armement extrêmement sophistiqué sans jamais déployer de doctrine associée à ces matériels. Il ne s'agit pas juste d'avoir des équipements pour se consacrer armée moderne, quoi que ce soit. Je vous donnerai un exemple qui illustre ça. C'était le général de Gaulle qui en parlait du conflit israélo-arabe, en disant que, c'était en 1967, en disant que, en parlant d'Israël, qu'Israël avait une armée là où les pays arabes ont des gens en armes. Donc, je pense que les gens comprendront le distinguo. Il est subtil, mais il est extrêmement compréhensible. Je vous donne un autre exemple. Regardez aujourd'hui la débauche technologique qu'un pays comme l'Arabie Saoudite a sur des pays comme le Yémen, avec une opposition qui est extrêmement low-tech, comme on dit, hein, ou relativement démunie d'un point de vue technique, mais sans marquer de points sur le terrain. Et tout en étant à leurs frontières. Alors bon, cela étant dit, l'Afghanistan nous rappelle aussi à nous nos propres déboires. Hein. Ça fait 17 ans que les Occidentaux sont en Afghanistan sans rien remporter. Un autre exemple hein, qui est pertinent, il y a quelques années, on avait en Arabie Saoudite attiré l'attention de la Royal Saudi Air Force, hein, donc c'est-à-dire l'armée de l'air saoudienne, sur la menace que représentent les missiles de croisière et les drones. Donc il y a de cela 6 ans. À titre personnel, j'ai eu l'occasion de briefer le général Ayash, qui était le patron de l'armée de l'air saoudienne à l'époque, qui est aujourd'hui le député assistant, hein, ministre de la Défense de Mohammed bin Salman en Arabie Saoudite, ministre de la Défense. Et à l'époque, j'avais réussi à le convaincre que l'entraînement face à la menace des forces aériennes saoudiennes n'était pas pertinent, n'était pas adéquat par rapport à la menace. J'avais contextualisé la menace par rapport à leurs moyens. Les Saoudiens à l'époque comptaient beaucoup sur l'oncle Sam, hein, l'allié américain. Aujourd'hui, je pense qu'il faut reformuler ça différemment. Je pense que les derniers événements l'ont montré. Mais surtout, ils étaient focalisés par rapport à ce qu'on leur disait aussi. C'est-à-dire que la menace, elle était balistique, balistique, balistique. Oui, elle est toujours balistique. Mais elle est aussi d'une autre nature, les missiles de croisière. Et on a vu au mois de septembre, lors de l'attaque de Quaiq et de Juarez, c'était 2 sites pétroliers d'Aramco. Ils ont été attaqués par des missiles de croisière Alors, c'est même pas des missiles de croisière, je dirais, on est dans le bricolage, parce que c'est des missiles de croisière à très faible coût. Hein. C'est des petits engins qui ont les apparences, je dirais, et les caractéristiques dynamiques d'un missile de croisière, mais sans en avoir le prix. Voilà. Et qui ont été déployés. C'est une attaque qui a coûté à l'Iran moins $1 million à monter. Et pourtant, ça a divisé par 2 la production pétrolière de l'Aramco. Donc vous voyez les enjeux, mais c'était un message qui avait été envoyé à l'époque par les Iraniens aux Saoudiens, mais surtout c'était pour montrer aussi là que lorsqu'on avait parlé aux Saoudiens il y a 6 ans de l'inadaptation de leurs moyens de défense et de leur entraînement par rapport à la menace, et ben 6 ans après ça s'est réalisé. Alors, mais tout simplement parce qu'on a juste fait notre travail. On a juste étudié une méthodologie, on a étudié la menace et on a formulé, en fait, et on l'a simulé. On a été jusqu'à mettre en place des outils de simulation pour montrer l'inefficacité de tels systèmes de défense qui coûtent des milliards de dollars. J'en veux pour preuve le Patriot à l'époque. Nous, on avait modélisé des batteries Patriot avec un logiciel particulier pour cela et sur lequel on avait simulé des attaques. D'accord ? Et qu'on a présenté aux Saoudiens. Et à l'époque, on avait démontré que les batteries Patriot ne pouvaient prendre en compte qu'à peine 30% de la menace. Donc ça veut dire que 70% des engins passeraient au travers de la raquette. Donc déjà, si vous avez ça, vous regardez ça d'une autre manière. Il s'est rien passé à ce moment-là, puisqu'ils sont rentrés en guerre quelques peu de temps après, c'était il y a 5 ans, pardon, avec le Yémen, et tout le monde a oublié. Et lors de l'attaque qui s'est passée, donc on reçoit une communication en nous demandant de reprendre le dossier. Voilà. Alors, vous voyez, je contextualise un petit peu, hein, mais on agit de cette manière. En fait, on est vraiment précurseur. Nous, on n'a rien à vendre en termes d'équipement ou quoi que ce soit. On est plus dans une méthodologie où on vend de la matière grise. Voilà, tout simplement, on analyse une situation et je pense qu'on a des clés aujourd'hui. On est peu, hein, on est peu nombreux sur ce créneau où on est capable de déployer et de formuler et articuler des concepts. On n'obéit pas à des règles où on attend un appel d'offres pour pouvoir bouger. En fait, on est en amont de tout ça. En fait, on analyse des postures ou des situations de conflit dans des zones. Il y en a plusieurs aujourd'hui. Hein. Voilà, on les analyse et on a la capacité de rencontrer des ministre de la Défense ou des chefs d'État et de pouvoir expliquer ceux sur lesquels on pourrait contribuer de manière à rendre, je dirais, leur système de défense plus efficace.
Si Habib Boukarouba parle de matière grise et de concept, on voit qu'on est tout de même loin de la philosophie. Le travail qu'effectue sa société a des conséquences très directes sur le champ de bataille. Et les États du Golfe pour lesquels il a travaillé ne sont pas les seuls à utiliser des prestataires privés. Leurs adversaires font souvent de même, au point que l'on peut désormais envisager des guerres par procuration entre sociétés privées.
Alors, les opérateurs privés, aujourd'hui, bien sûr qu'il est extrêmement propice. Aujourd'hui, on s'achemine vers une vraie révolution là-dessus. Hein. Je pense qu'il faut attendre le deuxième terme du mandat très probable hein, de Monsieur Trump pour voir que, par exemple, il y a un retrait des forces américaines de l'Afghanistan, par exemple, mais il y a un remplacement de beaucoup de ces unités par des sociétés militaires privées qui vont prendre le relais. Donc il y a une véritable industrialisation des sociétés militaires privées sous-jacentes. Là, on le voit aujourd'hui, par exemple, sur la Libye, avec le conflit entre le GNA du gouvernement de M. Sarraj, reconnu par l'ONU, et l'armée de libération nationale du maréchal Haftar, où on voit que les deux parties utilisent des sociétés militaires privées aujourd'hui. Une qui est en pointe aujourd'hui, qui est Wagner, qui est une société russe, bien que le mercenariat soit interdit en Russie, mais étrangement, il a pignon sur rue sur tous les conflits où la Russie a un intérêt aujourd'hui. Et aujourd'hui, les sociétés militaires privées deviennent de véritables acteurs et deviennent aussi des éléments de la diplomatie de ces pays-là. Chose qu'on n'a pas nécessairement compris en France. Aujourd'hui, sur le conflit libyen, par exemple, la France ne pèse rien, ou pratiquement pas grand-chose, parce qu'elle ne fait pas partie des acteurs. Aujourd'hui, on a une diplomatie qui est figée dans le XXe siècle et qui est totalement inadaptée à la nature des conflits d'aujourd'hui. On a une lecture de ces conflits qui est symptomatique et qui est pas en adéquation avec les véritables enjeux que sous-tendent ces conflits.
Ce n'est plus de la science-fiction. La guerre où les combats sont assurés en priorité par des prestataires privés a déjà commencé.
Il y a des acteurs privés au Yémen aujourd'hui sous contrat et qui font une partie des opérations aériennes pour un pays sur place. Voilà. Donc oui, effectivement, oui. Alors des opérations aériennes, elles sont de plusieurs natures. Hein. Ça peut être juste du renseignement, ça peut être de l'opération de drone. Pour pouvoir faire du ciblage, traquer des gens. Donc là, aujourd'hui, il y a tout un tas d'acteurs qui, aujourd'hui, opèrent ce genre d'équipement et qui vont jusqu'à la capacité de pouvoir tirer un missile. Tirer un missile ou larguer une bombe à guidage laser. Oui, c'est en cours aujourd'hui, absolument. Et il y a d'autres acteurs aujourd'hui qui se profilent, des acteurs qui sont pas nécessairement américains ou je dirais est-européens, mais très probablement des acteurs de type chinois, qui utilisent des moyens chinois. Aujourd'hui, le monopole de l'assassinat par drone n'est plus un monopole américain, il faut le savoir. C'était un monopole jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ça ne l'est plus. Les Américains ont eu ce monopole avec leur drone type Predator et Reaper, de pouvoir, au milieu de l'Afrique, au milieu du Moyen-Orient, de tuer quelqu'un en balançant un missile Hellfire. Aujourd'hui, vous avez d'autres acteurs qui ont cette capacité. Aujourd'hui, effectivement, des opérateurs privés ont cette capacité. Donc il y a Un groupe comme Wagner a déjà une capacité de cette nature. Et ils ne sont pas les seuls.
En aérien et en drone.
Oui, absolument. Alors, pas nécessairement sous la forme d'un Reaper, un engin qui peut tenir 24 heures, mais ils sont capables de déployer ce qu'on appelle des petits drones pour le combat d'infanterie aujourd'hui, qui ne sont plus du tout l'apanage de ce qu'on appelle d'armée. Donc là, vous rentrez réellement dans ce qu'on appelle les concepts hybrides, hein, où vous avez des proto ou semi-armés, hein, étatiques, mais qui ont des moyens, qui peuvent déployer des moyens qui, jusqu'à présent, étaient uniquement l'apanage des grandes nations. Et aujourd'hui, vous avez des acteurs qui sont capables de déployer des essaims de drones, par exemple, contre vous. Et la question, elle n'est pas de savoir si ça va avoir lieu ou pas. Ça a déjà lieu aujourd'hui. Voilà, donc ils ne sont pas les seuls. Hein. Wagner est une entité, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il faut regarder un petit peu du côté des sociétés d'Eric Prince, par exemple, où il a une capacité, mais il n'est pas le seul non plus. Hein, voilà. C'est la fin des États. Mais la fin des États, elle n'est pas nécessairement liée juste à des opérations militaires. On le voit déjà aujourd'hui à travers la concentration des pouvoirs par les GAFA, entre autres. Où on voit que des intérêts industriels sont bien plus puissants aujourd'hui que des intérêts étatiques. Donc, ça touche, je dirais, l'ensemble de la société. La société est en train d'être transformée, mais on n'a pas vraiment de but de guerre à ce niveau-là. On ne sait pas vers quoi cela va tendre. Mais je pense qu'il y aura de plus en plus de situations où le droit devient absolument inopérant. La société évolue beaucoup plus vite par rapport au dogme dans lequel on a vécu confortablement, je dirais, les 50, 70 dernières années.
C'était Habib Boukarouba, Top Gun privé pour Pays sans escadrille. Prise de son Fabien Gosset, réalisation Rafik Zenim. Les nouveaux corsaires par Philippe Vasset et Pierre Gatineau, une série que vous pouvez réécouter et même podcaster sur le site de France Culture.